Chapitre 7. Une semaine de lecture assidue s'était écoulée depuis le soir de sa première rencontre avec Ruth Morse, et il n'osait toujours pas se présenter chez elle. Il avait beau prendre son courage à deux mains, les doutes qui l'assaillaient sapaient sa détermination. Il ne savait pas quel était le moment opportun, et, comme personne n'était là pour le lui dire, il craignait de commettre un impair irréparable. Maintenant qu'il s'était débarrassé de ses anciens compagnons et de son ancien mode de vie, il ne lui restait que la lecture. Les longues heures qu'il y consacrait eussent ruiné une douzaine de paires d'yeux ordinaires, mais les siens, comme son physique en général, étaient d'une résistance à toute épreuve. Et puis son esprit était vierge. Ses facultés de penser l'abstraction, telle qu'on la trouve dans les livres, étaient restées en jachère, et elles étaient mûres pour les semailles. N'ayant jamais été harassées par l'étude, elles étaient encore affamées de savoir et ne demandaient qu'à mordre. Vers la fin de la semaine, il lui sembla avoir vieilli d'un siècle, tant était loin son ancienne vie et son ancien visage. Mais il se sentait floué par ses lacunes scolaires. Il essayait de lire des livres qui réclamaient des années de spécialisation. Un jour, il se plongeait dans un traité de philosophie antique, le lendemain dans un essai ultramoderne, de sorte que sa tête bouillonnait d'idées contradictoires. Il en était de même avec les économistes. À la bibliothèque, il trouva Karl Marx, Ricardo, Adam Smith et Mill, sans jamais voir dans les formules absconses de l'un la preuve que les idées de l'autre étaient obsolètes. Intrigué, il voulait tout comprendre. En une même journée, il était passé de l'économie à l'industrie, puis à la politique. En traversant City Hall Park, il avait remarqué un attroupement autour d'une demi-douzaine de débatteurs échauffés en grande conversation. S'étant joint aux auditeurs, il avait entendu un langage nouveau dans la bouche de ces philosophes populaires. L'un était clochard, un autre agitateur syndicaliste, un troisième étudiant en droit, et le reste était composé d'ouvriers volubiles. Pour la première fois, il entendit parler de socialisme, d'anarchisme, d'impôts proportionnels, et apprit qu'il existait des doctrines sociales conflictuelles. Il entendit des centaines de mots techniques appartenant à des systèmes de pensée que ses maigres lectures ne lui avaient pas encore permis d'embrasser. Incapable de suivre tous les arguments, il dut se contenter de deviner les idées qui se cachaient sous le manteau de ces étranges expressions. Vinrent ensuite un garçon de café aux yeux noirs qui se disait théosophe, un boulanger syndicaliste agnostique, puis un vieil homme qui les rembarra tous au nom d'une curieuse théorie selon laquelle ce qui est est juste, et un autre vieux qui discourut à n'en plus finir sur le cosmos, le père atome et la mère atome. Quand il s'en alla, quelques heures plus tard, le cerveau complètement embrouillé, Martin Eden se précipita à la bibliothèque pour consulter les définitions de ces termes bizarres. Il en ressortit avec 4 volumes sous le bras. La doctrine secrète de Madame Blavatsky, Progrès et pauvreté, la quintessence du socialisme et le conflit de la religion et de la science. Hélas, il commença par la doctrine secrète. Chaque ligne était encombrée de mots interminables et incompréhensibles. Assis sur son lit, il feuilleta plus souvent le dictionnaire que le livre. Il absorba tant de définitions nouvelles que, lorsque les mêmes mots revenaient dans le texte, il en avait oublié le sens et devait le vérifier une seconde fois. Il décida de noter les définitions dans un carnet qu'il noircissait page après page. Mais il n'y comprenait toujours rien. Il lut jusqu'à 3 heures du matin et se tortura la cervelle sans parvenir à saisir une seule pensée essentielle de l'ouvrage. Levant les yeux, il crut voir la pièce rouler et tanguer comme un navire au grand large. Alors il lança la doctrine secrète en travers de la chambre avec force juron et se résigna à dormir. Il n'eut guère plus de chance avec les 3 autres livres. Non que son cerveau fût trop lent ni atrophié, il eût été fort capable d'assimiler ses idées s'il eût été plus entraîné à la chose et si les outils du discours lui eussent moins manqué. Conscient de ses empêchements, il envisagea un instant de se consacrer exclusivement à la lecture du dictionnaire tant qu'il n'aurait pas acquis une maîtrise totale du vocabulaire. La poésie, en revanche, était son soleil. Il en lisait beaucoup. Et prisait surtout les poètes les plus simples, ceux qui lui étaient le plus compréhensibles. Il aimait la beauté, et là, il en trouvait. La poésie, comme la musique, le remuait profondément, et il se préparait sans le savoir à la tâche plus ardue qui l'attendait. Son esprit était une page blanche sur laquelle les strophes tant aimées s'imprimaient sans effort, et il prit bientôt plaisir à déclamer, à voix haute ou dans un murmure, de mélodieux vers appris par cœur. Puis il découvrit côte à côte sur un rayonnage de la bibliothèque la mythologie classique de Galley et l'âge de la fable de Bullfinch. Ce fut une illumination, une lumière vive dans les ténèbres de son ignorance, et il se mit à lire la poésie avec plus de ferveur encore. À force de voir Martin, le bibliothécaire était devenu très chaleureux envers lui et le saluait chaque fois avec un sourire et un petit signe de la tête. Cette bienveillance incita Martin à plus de hardiesse. Lors d'un retrait de livre, tandis que l'homme tamponnait ses cartes sur le bureau, il se jeta à l'eau. « Dites voir, il y a quelque chose que je voudrais vous demander, » fit-il. L'homme lui sourit et l'écouta. « Quand vous rencontrez une demoiselle et qu'elle vous demande de revenir, au bout de combien de temps vous pouvez y aller ?» Martin était si gêné qu'il en mouillait sa chemise. « Ma foi, n'importe quand, » répondit l'homme. « Oui, mais là, c'est différent, elle, comment dire, voilà. » Peut-être qu'elle ne sera pas là. Elle va à l'université. En ce cas, retournez-y plus tard. Non, c'est pas ce que je voulais dire, avoua Martin en balbutiant, résolu cette fois à s'en remettre entièrement à la merci de l'autre. Je suis qu'un pauvre gars sans manière et j'y connais rien au grand monde. Cette fille est tout ce que je suis pas et je suis rien de ce qu'elle est. Vous croyez pas que je me moque au moins ? Ajouta-t-il tout à coup. Non, non, pas du tout, je vous assure, protesta l'autre. « Votre requête n'entre pas exactement dans les attributions du service de documentation, mais je suis tout disposé à vous aider. » Martin le regarda avec admiration. « Si je pouvais tourner ça pareil, je serais au point, » dit-il. « Je vous demande pardon ? Je veux dire, si je pouvais causer comme vous, poliment et tout. » « Ah !» fit l'homme compréhensif. « C'est quoi le meilleur moment pour y aller ? L'après-midi ? Pas trop tôt après le repas ou le soir ? Ou le dimanche ? « Je vais vous dire, » répondit le bibliothécaire avec bonhomie. « Appelez-la donc au téléphone et posez-lui la question. »« C'est ce que je vais faire. » Il ramassa ses livres et se retira, en se retournant une dernière fois pour demander. « Quand vous parlez à une demoiselle, mettons, par exemple, Miss Lizzie Smith, vous dites « Mademoiselle Lizzie » ou « Mademoiselle Smith »?»« Dites « Mademoiselle Smith ». » affirma le bibliothécaire avec autorité. « Dites toujours, Mademoiselle Smith, jusqu'à ce que vous la connaissiez mieux. » Ce fut ainsi que Martin Eden résolut le problème. « Venez quand vous voudrez, je serai à la maison tout l'après-midi. » fut la réponse de Ruth au téléphone, quand il lui demanda en bredouillant à quel moment il pourrait lui rendre les livres qu'elle lui avait prêtés. Elle lui ouvrit la porte elle-même, et son œil féminin remarqua immédiatement le pli du pantalon, ainsi qu'une amélioration générale, mais indéfinissable, de sa personne. Elle fut aussi frappée par l'expression de son visage, d'où émanait une sorte de violence contenue, une énergie communicative et presque tangible. De nouveau, elle éprouva le désir de se pencher vers lui, tout étonnée de l'effet que sa présence produisait sur elle, tandis que lui, de son côté, redécouvrait de vertigineuses sensations en lui touchant la main. Mais, alors qu'elle restait posée et maîtresse d'elle-même, il rougissait jusqu'à la racine des cheveux en la suivant clopin-clopant vers le salon, avec un dangereux balancement des épaules. Quand ils furent installés, il se sentit plus à l'aise, beaucoup plus qu'il ne s'y était attendu. Elle s'appliqua à lui simplifier les choses, avec une bonne grâce qui le rendit encore plus follement amoureux. Ils parlèrent d'abord des livres empruntés, de Swinburne, qui l'enthousiasmait, et de Browning, qu'il ne comprenait pas. Et, tout en menant la conversation d'un sujet à l'autre, elle réfléchissait aux moyens de lui être utile. Elle y avait beaucoup songé depuis leur première rencontre. Elle voulait l'aider. Il suscitait sa pitié et sa tendresse comme personne avant lui. Mais ce n'était pas de l'apitoiement. C'était son instinct maternel qui parlait. Ce ne pouvait être une pitié ordinaire quand l'homme qui en était l'objet effarouchait sa pudeur de jeune fille par les pensées étranges et les sentiments inconnus qu'il éveillait en elle. Son cou la fascinait toujours et l'envie d'y poser ses mains la taquinait encore, une pulsion dont l'impudicité la choquait déjà moins. Elle n'imaginait pas un instant que ce détail pût être la matérialisation déguisée d'un amour naissant, puisqu'elle ignorait encore qu'il lui inspirait de l'amour. Elle croyait ne s'intéresser à lui que par curiosité pour les talents variés et insolites qu'il manifestait, et même par philanthropie. Si elle ne savait pas qu'elle le désirait, il en allait différemment pour lui. Il savait qu'il l'aimait et la désirait plus que toute autre chose au monde. Depuis qu'il l'avait rencontrée, il ne chérissait plus la poésie pour sa seule beauté, mais pour l'immense champ de plaisir littéraire dont Ruth lui avait donné la clé. Elle la lui avait fait comprendre mieux que Bulfinch et Galley. Il y avait un vers, notamment, « Le fol amant de Dieu mourant sur un baiser », qui, une semaine plus tôt, ne lui eut rien évoqué, mais qui, à présent, le hantait. Il s'émerveillait de sa splendeur et de sa vérité et se disait, en la regardant, qu'il fût mort avec joie sur un baiser d'elle. Il se sentait lui-même un fol amant de Dieu et n'eût pas tiré plus de fierté d'un adoubement de chevalerie. Il savait enfin le sens de la vie et pourquoi il était né. Plus il la contemplait, plus il l'écoutait, plus ses pensées se faisaient audacieuses. Il revivait les délices de sa main dans la sienne devant la porte, et lorsqu'il laissait ses yeux errer vers sa bouche, un désir brutal s'accrochait à ses lèvres, mais un désir désincarné. Il prenait un plaisir infini à observer leurs plis et leurs mouvements lorsqu'elles prononçaient une parole. Ce n'étaient pas des lèvres ordinaires, leur substance n'était pas humaine. C'étaient de purs esprits, et son désir d'elle était absolument différent de celui qu'il avait attaché à d'autres bouches de femmes. S'il eût baisé ses lèvres, s'il les eût touchées avec ses propres lèvres, charnellement, il y eût mis la même ferveur respectueuse que pour baiser la robe de Dieu. Il n'avait pas conscience de la transmutation des valeurs qui s'étaient opérées en lui et ne se rendait pas compte que la lueur qui brillait dans ses yeux lorsqu'il la regardait était la même qui brillait dans les yeux de tous les hommes quand le désir d'amour était en eux. Il ne se doutait pas non plus que l'ardeur masculine de sa flamme bouleversait l'alchimie mentale de Ruth. Son image virginale exaltait et travestissait les émotions d'un Martin Eden devenu chaste comme un ange et qui eût été déconcerté d'apprendre que c'était sa propre flamme qui se reflétait dans les yeux de la jeune fille. Elle en était étrangement troublée et, plus d'une fois, sans qu'elle en devinât la cause, cette délicieuse intrusion du désir dérangea le fil de ses pensées et l'empêcha d'achever ses phrases. Comme elle avait toujours discouru avec aisance, elle imputait ses hésitations inaccoutumées à sa distraction. Elle était très sensible, et il n'y avait rien d'anormal, après tout, à ce que ce voyageur d'un autre monde la décontenançât. Dans un coin de sa conscience, elle continuait à s'interroger sur le moyen de lui venir en aide et tentait d'orienter la conversation dans ce sens. Mais ce fut Martin qui aborda la question en premier. « Je me demande si vous pourriez me donner un conseil, » commença-t-il. Et il reçut un signe d'acquiescement qui fit bondir son cœur. Vous vous rappelez l'autre fois, quand je vous ai dit que je ne pouvais pas bien causer des livres et tout parce que je ne savais pas comment? Eh bien, j'y ai pas mal réfléchi depuis. Je suis allé à la bibliothèque, mais la plupart des livres que j'ai lus m'ont passé au-dessus de la tête. Peut-être que j'aurais intérêt à commencer par le commencement. J'ai jamais été avantagé. J'ai travaillé dur depuis que je suis gosse. À la bibliothèque, je me suis mis à regarder les livres d'un autre œil. Et maintenant, je me dis que j'ai peut-être pas lu les bons. Vous savez, les livres qu'on trouve dans les ranchs et les postes d'équipage sont pas les mêmes que dans cette maison, par exemple. C'est toujours cela que j'ai lu, mais... Et je dis pas ça pour me vanter, je suis différent des gars avec qui j'ai vécu. Attention, je suis pas meilleur que les matelots et les cow-boys avec qui j'ai voyagé. J'ai mené du bétail pendant un temps, vous savez. Mais j'ai toujours aimé les livres. J'ai lu tout ce que je pouvais et... je crois que je pense pas comme eux. Alors maintenant, voilà où je veux en venir. J'avais jamais été dans une maison comme ici. Quand je suis venu, l'autre semaine, et que je vous ai vu, et votre mère, et vos frères, et tout ça, eh bien ça m'a plu. J'en avais entendu parler, j'avais lu des choses là-dessus, et quand j'ai vu votre maison, les livres sont devenus réalité. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça m'a fait envie. Ça me fait toujours envie. Je veux respirer cet air-là, moi aussi. Vivre au milieu des livres, des tableaux, des belles choses, avec des gens qui parlent à voix basse, qui sont propres, qui ont des pensées propres. L'air que j'ai toujours respiré sentait la crasse, la pauvreté, la gnôle, la crapule. Quand vous vous êtes levé pour aller embrasser votre mère, j'avais jamais vu une chose aussi belle. J'ai roulé ma bosse pourtant, j'ai vu des tas de choses, beaucoup plus que ceux qui étaient avec moi. Parce que j'aime regarder. Je veux toujours en voir plus et je veux voir du nouveau. Mais c'est pas encore ce que je voulais dire. Voilà. Je veux vivre à votre façon, comme vous vivez ici. Et autre chose que l'agneau, le boulot et la castagne dans la vie. Mais comment que je peux y arriver? Par où que je dois commencer? Je veux me frayer un chemin, voyez, et je peux abattre un fameux travail quand il faut. Quand je m'y mets, je peux m'arner du matin au soir. Vous me trouvez peut-être drôle de vous demander ça. Je sais que vous êtes la dernière personne au monde à qui le demander, mais je vois pas vers qui d'autre je pourrais me tourner. Sauf Arthur. Oui, peut-être que j'aurais dû m'adresser à lui. Si j'aurais su. Il n'alla pas plus loin. Sa ferme résolution vacillait devant cet horrible doute. En s'adressant à Arthur, il eût peut-être évité de se couvrir de ridicule. Ruth ne lui répondit pas tout de suite. Elle était trop occupée à essayer de concilier le discours chaotique, maladroit et un peu naïf qu'elle venait d'entendre, avec la puissante impression que lui produisait son visage. Ce langage pitoyable s'accordait si mal avec les capacités illimitées qu'elle voyait en lui. Elle avait une intelligence si vive et si complexe que les idées trop simples comme celle-ci la désemparaient, d'autant plus qu'elle était loin de le tenir pour un faible d'esprit. Il lui faisait l'effet d'un géant luttant contre des chaînes qui le clouaient au sol. « Ce qui vous manque, » dit-elle avec une chaleureuse bienveillance, « vous vous en rendez compte vous-même, c'est de l'éducation. Vous devriez d'abord terminer l'école primaire, puis aller au collège et à l'université. Mais ça demande de l'argent. Ah, je n'avais pas pensé à cela. Mais vous devez bien avoir de la famille, un parent qui accepterait de vous aider. » Il secoua la tête. Mon père et ma mère sont morts. J'ai deux sœurs. Il y en a une qui est mariée et l'autre va sûrement pas tarder à l'être. J'ai une flopée de frères aussi, je suis le plus jeune. Mais ils n'ont jamais aidé personne. Ils sont éparpillés un peu partout dans le monde pour chercher fortune. L'aîné est mort aux Indes, il y en a deux en Afrique du Sud, un autre sur un baleinier, et un autre encore qui fait le trapéziste dans un cirque ambulant. Au fond, je suis comme eux, je me débrouille tout seul depuis que j'ai 11 ans. Depuis que ma mère est morte, pour dire. Alors, il n'y a pas. Faudra que je me débrouille tout seul aussi pour étudier, mais j'irai pas nulle part si je ne sais pas par où commencer.
Selon moi, la première chose à faire est d'apprendre la grammaire. Votre grammaire est, elle faillit dire, horrible, mais se ravisa. N'est pas excellente.
Il rougit et transpira. Je sais que je cause des fois l'argot et que vous comprenez pas tous mes mots, mais c'est les seuls mots que je peux me servir. J'en ai d'autres en tête que j'ai piqués dans des livres, mais je sais pas les prononcer, alors je m'en sers pas.
Ce n'est pas tant ce que vous dites. C'est plutôt la manière de le dire. Je peux me permettre d'être franche, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas vous blesser.
Non, non, allez-y, fit-il en la bénissant secrètement pour sa bonté. Faut que je sache, et j'aime mieux l'apprendre de vous que de n'importe qui d'autre.
Eh bien, par exemple, ne dites pas « si j'aurais su », mais « si j'avais su ».
Au lieu de « je sais pas », dites « je ne sais pas ».
Vous employez aussi la double négation.
Hein? C'est quoi la double négation? Demanda-t-il. Puis il ajouta humblement. Voyez, je comprends même pas vos explications.
Je ne crois pas vous l'avoir expliqué, dit-elle en souriant. Une double négation, c'est... Attendez, eh bien, quand vous dites « je n'irai pas nulle part »,
nulle part est une négation, et je n'irai pas en est une autre. Or, d'après la règle, deux négations valent une affirmation. « Je n'irai pas nulle part » revient à dire que vous irez quelque part.
« C'est très clair. J'y avais jamais pensé. »
« Mais ça signifie pas que j'irai forcément quelque part, exact. Enfin si, mais c'est moins net que « j'irai quelque part ».
Vous avez raison, je le dirai plus. »
Elle fut ravie et surprise par la vivacité de son esprit. Non seulement il l'avait comprise, mais il avait même ajouté une subtilité à sa démonstration.
Vous trouverez tout cela dans la grammaire, poursuivit-elle. Autre chose que j'ai remarqué, vous dites « y en a » ou « y a pas ». Ce sont des élisions. Il manque deux petits mots. Vous voyez lesquels ?
Il réfléchit un instant et répondit « il et ne ». Elle acquiesça puis reprit « et n'employez pas le mot « causer » quand vous voulez dire « parler ».
Cela l'intrigua davantage. Donnez-moi un exemple, demanda-t-il. Eh bien, elle fronça les sourcils en faisant une petite moue songeuse qu'il trouva absolument adorable. Vous avez dit « je cause l'argot ». Remplacez « causer » par « être la cause de » et la phrase devient « je suis la cause de l'argot », ce qui est parfaitement absurde.
Il médita la chose d'un air perplexe.
« Cela ne choque pas vos oreilles ? » fit-elle.
« Pas que je sache, » répondit-il en respectant le subjonctif.
« Tiens, pourquoi n'avez-vous pas dit « pas que je sais » ?»«
Parce que ça sonne faux. Là, je suis d'accord. Mais pour l'autre truc, j'ai pas l'oreille aussi entraînée que vous. Je vois pas comment que ça choque. »
« La locution « comment que » n'existe pas, » dit-elle avec autorité.
Martin rougit de nouveau.
« Et puis, vous ne marquez pas la différence entre les « o » fermés et les « a » ouverts, entre les « e » et les « e ». Vous négligez les liaisons et vous écorchez la moitié des mots.
« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il se pencha en avant, prêt à s'agenouiller devant un si bel esprit.
« Comment j'écorche les mots ?»« Votre prononciation ne respecte pas l'orthographe. »«
Je fais » s'écrit « F-A-I-S ». Cela ne se prononce pas comme « fait ». F-E-E. Et lorsque ce mot est suivi d'une voyelle, vous devez faire sentir le S final par une liaison. De même, oh mais je ne vais pas tout passer en revue maintenant, tout cela se trouve dans la grammaire. Je vais vous chercher un manuel et je vous montrerai comment procéder.
Comme elle se levait, il se leva aussi, se rappelant vaguement avoir lu une recommandation à ce sujet dans un livre de savoir-vivre, mais sans être sûr de lui et en craignant qu'elle n'interprétât son geste comme un désir de prendre congé. À propos, « Monsieur Eden, » dit-elle avant de franchir la porte, « qu'est-ce que la gnôle ? Vous avez employé ce mot plusieurs fois. »«
Oh, la gnôle, » fit-il en riant, « c'est de l'argot, ça veut dire whisky, gin. Enfin, tout ce qui peut vous saouler. »«
Ah, autre chose, » reprit-elle en riant aussi, « n'employez pas le pronom « vous » dans les cas impersonnels. « Vous » est très personnel et l'usage que vous venez d'en faire ne correspond pas à ce que vous vouliez dire. »
« Je vois pas. »«
Eh bien, vous venez de me dire à moi, le whisky, le gin, tout ce qui peut vous saouler. Autrement dit, me saouler, voyez-vous ?»«
Bah, ma foi, ça vous saoulerait bien aussi, non ?»«
Oui, bien sûr. »
Elle sourit.
« Mais ce serait plus courtois de ne pas m'impliquer. Retirez le « vous » et vous verrez que c'est beaucoup mieux. »
Quand elle revint avec la grammaire, elle approcha sa chaise. Il se demanda s'il n'eût pas dû l'aider et s'assit à côté de lui. Elle se mit à tourner les pages. Leurs têtes étaient inclinées l'une vers l'autre et il avait du mal à suivre ce qu'elle lui disait, tant il était ému par sa délicieuse proximité. Mais quand elle commença à lui expliquer l'importance des conjugaisons, il oublia son trouble. Il n'avait jamais entendu parler de conjugaisons et fut fasciné par les subtilités de langage que cette nouveauté lui faisait entrevoir. Comme il se penchait sur la page, sa joue effleura la chevelure de route. Il ne s'était évanoui qu'une fois dans sa vie et crut un instant que cela allait le reprendre. Il pouvait à peine respirer, son sang palpitait dans sa gorge et l'étouffait. Jamais elle ne lui avait paru aussi accessible. Le gouffre qui les séparait devenait soudain franchissable, mais ses sentiments pour elle étaient toujours aussi éthérés. Elle n'était pas descendue jusqu'à lui, c'était lui qui s'élevait vers elle, emporté par un nuage. Il la vénérait avec une ferveur quasi religieuse. Il eut l'impression d'être un intrus dans le sein des saints et lentement, avec délicatesse, il écarta sa tête de ce contact qui l'électrisait comme une prise de courant et dont elle n'avait même pas eu conscience.